Il y a une ambiance très feutrée ce matin. Alors je ne sais pas comment l'interpréter, si c'est la fatigue de Noël qui... la digestion qui est un peu plus lente que d'habitude, ou si c'est tout simplement l'esprit des vacances et de la saison qui fait qu'on peut se poser un petit peu, souffler, être moins speed. Ou si tout simplement c'était ce matin, encore une fois, l'émerveillement qui vous gardait dans le silence devant ce que le Seigneur a fait à Noël. Je ne sais pas. Et puis j'espère que chacun d'entre vous a passé un superbe Noël. C'est ce qu'on souhaite à chacun. Et puis lorsqu'on y réfléchit, on se dit, c'est quoi un superbe Noël ? Alors moi, lorsque je parle avec des personnes, souvent, c'est, on était en famille. Toute la famille était là. Tous les enfants, les petits-enfants. D'autres diront, c'était calme. Pour une fois, j'étais invité, je n'avais pas à faire toute la cuisine. J'étais plutôt du côté de ceux qui recevaient que de ceux qui donnaient. Puis il y en a qui diront, Noël, c'était un super Noël parce que pour une fois, j'ai reçu les cadeaux que je voulais. Le lendemain, je n'ai pas dû faire du troc et échanger ou rapporter les cadeaux parce qu'on a vu juste. Pour d'autres, c'était un super Noël parce que j'ai trouvé les cadeaux qui plaisaient aux gens à qui je faisais des cadeaux. C'est quoi un superbe Noël ? C'est quoi un Noël de joie et de vraie joie ? Et moi, ce matin, je ne veux pas revenir sur toutes ces bonnes raisons qui font que vous appréciez cette période de Noël ou que vous vous réjouissez en ces temps, et que tous les ans, d'une façon ou d'une autre, on se dit vivement Noël, voilà, c'est bien, c'est sympa, et tout ça. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que les joies que nous pouvons vivre et ressentir sont des bénédictions que le Seigneur déverse sur nous. Et toutes ces raisons que j'ai citées sont de bonnes raisons que le Seigneur nous donne aussi. Il nous donne nos familles, il nous donne nos amis, il nous donne la capacité de donner et de recevoir. Il nous donne la capacité de profiter de bons repas et de nous réjouir de mets succulents. Et pourtant, vous êtes tous comme moi, vous vous rendez compte que Noël change. Noël n'est plus ce que Noël était. Il fait 12 degrés dehors. Moi, les Noëls, je me souvenais, il faisait moins 5. Les Noëls changent. Et ils changent parce que tout notre monde est en train de changer. Et il change tellement vite que la seule chose qui reste autour de Noël aujourd'hui, c'est les supermarchés et puis les grands paquets de chocolat et de dinde et de choses comme ça. Ça, c'est la constante. Mais le reste, avec les familles recomposées, avec les gens qui vivent loin, avec des mariages de confessions différentes, et puis la laïcité au milieu qui essaye de mettre tout le monde à peu près d'accord pour qu'on ait quelque chose qui nous tienne ensemble. Et Noël change. Noël n'est plus comme Noël était. Et Noël ne sera plus comme Noël était dans le passé. Alors, je ne veux pas être trouble-fête, je veux simplement vous aider à préparer Noël prochain. C'est pour ça que ce que je vais dire ce matin est en préparation à Noël prochain, pas pour vous dire vous avez passé un mauvais Noël. Mais ce qui a une chose qui m'a frappé lorsque j'ai relu les récits de Noël, c'est que dans les récits de Noël, dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, il y a ce mélange de choses qui sont bien et de choses qui sont moins bien. Et en fait, la véritable histoire de Noël, c'est ce mélange de choses bien et de choses qui nous dérangent. Et certains d'entre vous avaient peut-être passé un Noël plus solitaire, où vous n'étiez pas en famille. Et ça fait mal. Certains d'entre vous auraient peut-être voulu faire des cadeaux, recevoir des cadeaux, mais vous n'aviez pas les moyens de le faire. Et ça fait mal. Certains d'entre vous vous retrouvez peut-être dans des familles recomposées où des gens ont des opinions différentes. Avant, c'était la politique. Aujourd'hui, ça sera la religion ou l'environnement. Et les conversations autour de la table, elles ne sont pas toujours les plus sympas. Puis on se dit, ben, vivement le lendemain de Noël, et puis on s'en sort. Mais c'est pour ça que moi, ce que j'aimerais vous encourager en vue de l'année prochaine, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut se réapproprier Noël ? Quel est le véritable esprit de Noël que nous pouvons saisir, tenir, et qui nous aidera à vivre ces événements, encore une fois, en famille, avec des cadeaux, chez les autres, famille recomposée ou pas, mais d'une façon qui fait jaillir cette véritable joie du sens de Noël. Et j'aimerais aujourd'hui m'attarder sur certains éléments de l'histoire de Noël, mais que nous avons fini avec le temps par simplement réduire à du folklore. Vous savez, folklore, c'est ces choses culturelles que l'on fait. On ne sait pas trop d'où elles viennent, mais on les fait, puis on les fait, puis on les répète, puis c'est simplement la forme qui compte. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup d'éléments dans la façon dont nous percevons et comprenons Noël qui sont du folklore, qui n'ont plus beaucoup de sens. Si vous venez chez moi, vous verrez un arbre de Noël et en même temps une crèche. D'où ça vient, ça ? Pourquoi ce mélange ? D'où vient l'idée de cadeaux et puis de recevoir des cadeaux et puis le grand repas, toutes ces choses qui se mélangent et qui font que ben, on a ce folklore de Noël qui nous semble beau, qui nous semble sympathique, mais qui en même temps, c'est quoi le sens ? Et figurez-vous que les crèches et les scènes de la nativité, on a commencé à mettre ça en avant et à regarder ça comme quelque chose de bien seulement au XIIIe siècle. Avant le XIIIe siècle, les scènes de nativité n'existaient pas. Et en fait, le Jésus qu'on célébrait beaucoup plus avant était le Jésus vainqueur, le Jésus Seigneur. Puis arrivé au XIIIe siècle, François d'Assise, il a dit, mais oui, mais enfin quand même, il y a cette humilité de Jésus, il y a cette humiliation de Jésus. Et puis il a commencé à mettre en avant la nativité. Et puis après, on y a rajouté le bœuf et l'âne, sans savoir exactement d'où venait le bœuf et l'âne. Et puis, quand je préparais cette prédication et que je regardais encore sur Internet des articles et tout, on voit Marie et Joseph qui vont à Bethléem, généralement avec la lune derrière eux, et puis Marie sur un âne. Mais l'âne et la lune, ça nous vient d'où ? On parle d'une étable. Alors vous avez tous votre étable chez vous, quoi. Je veux dire le truc en bois avec le toit et puis la paille, etc. Et tout. Bon, ben, les étables à Bethléem, si vous allez à Bethléem, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est un trou dans la montagne, une espèce de grotte. Et on a toute une série d'images que nous nous sommes faites aujourd'hui, que nous avons complètement construites avec des influences extérieures, qui font que nous avons une représentation de Noël qui s'arrête à une sorte d'imagerie, mais qui finit par perdre son sens. Et moi, je me pose cette question, non pas simplement par rapport à la façon dont je fête Noël, mais tout simplement pour me dire quel est le message de Noël que je transmets et dans lequel je crois aujourd'hui qui a un sens dans le monde dans lequel nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, on va retirer les crèches pour des questions de laïcité, mais on les retire aussi parce que ça n'a plus de sens. Franchement, quand vous y réfléchissez, un bébé couché dans de la paille, ça veut dire quoi ? Quel est le message derrière ça ? Des bergers qui entendent quelque chose, ils disent qu'ils entendent quelque chose, puis ils viennent et puis ils adorent ce petit bébé, puis personne d'autre ne l'entend. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? 3 dingues d'Orient qui croient voir une étoile, qui suit cette espèce de lumière, ils arrivent, c'est les seuls à la voir. Elle s'arrête, paraît-il, au-dessus de cette étable. Et puis ils apportent des cadeaux, puis ils rentrent chez eux. Ça veut dire quoi ? Et puis, ces choses qu'on ne lit pas le jour de Noël, Hérode qui massacre des gamins. Ça, on ne le lit pas à Noël. Parce que la Syrie, on en entend parler toute l'année quand même, on ne va pas en parler le 25 décembre. Ce n'est pas le genre de choses qui nous fait vraiment plaisir. Donc, on ne lit pas le massacre des innocents dans nos lectures de Noël. Et pourtant, c'est juste là, dans l'évangile de Matthieu, dans la foulée de tout ce texte de Noël. Donc, moi, ce que j'aimerais, tout simplement, c'est reprendre ces éléments que je ne nie pas et que je ne suis pas en train de remettre en question quoi que ce soit dans le texte de la Nativité, mais de me dire aujourd'hui, si nous allons tous, les uns et les autres, dans notre monde aujourd'hui, continuer à lutter pour donner un sens à Noël, quand ce monde commence à se dire, on peut se défaire complètement de Noël, du sens de Jésus-Christ, on vit bien sans lui, il va falloir, pour nous-mêmes, que nous retrouvions ce sens, sinon nous allons tous nous laisser dévorer par tout simplement ce qui se passe autour de nous. Et moi, souvent, autour de Noël, j'ai l'impression de me faire dévorer par ce qui se passe à la radio, la télévision, dans les magasins, et j'y vais plus dans les magasins. Mais il y a une opportunité aussi à faire ça, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi parce que notre monde aujourd'hui est en train de se poser de plus en plus des questions extrêmement importantes. Nous tous qui avons vécu un petit peu les 30 glorieuses, les années 60, 70, 80, on avait l'impression que le monde se développait, il devenait meilleur, il y avait plus la paix dans le monde, la démocratie, la science, elle progressait, la technologie est phénoménale. Ce monde est absolument génial, tel qu'on ne l'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Il arrive la fin des années 80 à 90 et là on commence à se reposer un certain nombre de questions. Des choses horribles arrivent comme en Bosnie-Herzégovine. La technologie, c'est pas mal, mais on est tous sur nos écrans, puis on n'arrive plus à se parler. Et après, il y a toute une série de valeurs, de questions. Et puis la politique, ça n'a pas tout résolu. On est encore dans un caca monstrueux quand même à l'échelon planétaire. Et l'autre jour, j'entendais, ils avaient fait venir une psychiatre à la radio pour essayer de lui dire « Mais quel est le sens de Noël ?» et d'essayer de nous retrouver la possibilité de donner un sens à Noël. Évidemment, la réponse qu'il fallait donner, c'est que il faut redonner les valeurs de la République à Noël. L'amour, la fraternité, la liberté. Et c'est ça le sens de Noël qu'on essaye de donner aujourd'hui. Alors encore une fois, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas, arrêtons, faisons tout autre chose que ces païens de Noël et tout. Mais nous devons nous poser la question, quel sens on lui donne? Et moi, de penser à une étoile qui se balade avec trois mages sur un chameau, si je ne vais pas au-delà de cette imagerie-là, ça me sert à quoi dans ma foi? Ça me sert à quoi? Alors ce matin, je voulais simplement vous mettre sur des pistes, pas toutes, pas tout le détail de cette histoire de la nativité, mais un jour je vous propose de le faire. Et la façon dont j'aimerais le faire, c'est tout simplement mettre cette histoire dans le contexte de comment Dieu agit de façon beaucoup plus large dans sa parole. Et de montrer à quel point ce qui s'est passé à Noël est une façon exquise et magnifique de la façon dont Dieu agit dans notre monde, traite les humains et la façon dont il réalise son œuvre, même si on ne voit pas toujours comment elle se réalise. Et j'aimerais revenir à cette étoile. Et je ne veux pas passer beaucoup de temps, comme un certain nombre de chrétiens ont passé du temps pour essayer de prouver que cette étoile a eu lieu ou pas eu lieu. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas simplement à prouver qu'elle a eu lieu un jour ou l'autre. Mais ce qui est formidable dans cette histoire de trois mages d'Orient qui suivent une étoile, c'est que Dieu guide encore les hommes. Dieu guide encore les hommes. Dieu, depuis le départ, n'est pas un Dieu qui a simplement placé l'homme sur la terre et qui a dit un petit peu débrouille-toi, puis le jour où tu perds ton chemin, ben, appelle-moi, puis je verrai si je peux t'aider. Dès le début, Dieu est un Dieu qui est impliqué dans une relation avec sa création et dans le monde. Et il est un Dieu qui marche avec les hommes, qui marche devant les hommes et qui va les guider. Et nous avons besoin d'un guide, premièrement parce que nous ne sommes que des créatures, donc quelque part nous sommes limités dans ce que nous pouvons comprendre et voir. Mais nous avons aussi besoin d'un guide en raison des erreurs que nous commettons et du péché qui altère notre jugement et notre conduite. Or, ce qui est formidable depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est que nous avons un Dieu qui, lui, n'est jamais perdu. Il a été dans le désert avec son peuple et il a dit, tu sais, moi je sais où je vais, hein. Même si je vais tourner 40 ans avec toi dans le désert et on va tourner en rond pendant un bon moment, moi je vais t'aider à trouver la sortie. Et il a aidé son peuple à trouver la sortie. Et puis si on zoome un tout petit peu et qu'on regarde nous après en se disant mais nous avons l'écriture, nous avons la Bible, dans laquelle Dieu a manifesté qui il était, mais il a manifesté aussi comment il voit les choses et comment elles devraient fonctionner, et surtout que lui, il souhaite être en relation avec nous et que c'est dans ce cadre-là que les choses fonctionnent. Et puis il a dit, tu sais, il y a des moments où je vais te laisser être un tout petit peu dans le noir, un tout petit peu pas savoir exactement ce qu'il y a derrière la montagne là, mais t'en fais pas, fais-moi confiance, je t'y emmène. Dieu est un guide. Ah, ça n'a peut-être pas un coup révolutionnaire ce matin, mais je veux dire pour vous, lorsque vous posez plein de questions sur votre propre vie, qu'est-ce qui m'attend demain? Comment est-ce que je devrais prendre une décision maintenant? Pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça? Vous pouvez continuer à poser ces questions avec Dieu parce qu'à un moment ou à un autre, il va donner un sens à ça. Et il sera votre guide. Mais ce qu'il y a de formidable avec les trois mages aussi, c'est des païens. C'est des non-croyants. C'est des gens qui n'ont pas été élevés dans la religion juive. C'est des gens qui avaient un système de pensée qui était tout autre, tout différent. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu se révèle à des gens qui sont ailleurs et tout autre. Et moi, ça m'encourage dans le monde aujourd'hui où l'Église n'est plus dominante, où la pensée chrétienne n'est plus la pensée dominante, où les valeurs que nous défendons ne sont plus peut-être les valeurs qui sont défendues et tout ça. Mais ce qu'il y a de formidable avec cette histoire de mage, c'est que Dieu poursuit son œuvre, même dans la tête des gens qui pensent très différemment. Et je pourrais sortir des témoignages que j'ai entendus de personnes qui toute leur vie avaient pensé, réfléchi, promu d'autres idées et tout, et puis Dieu, il trouve un peu son chemin là-dedans, et puis il transforme des vies. Et moi, souvent, je me réveille et je me dis, mais comment est-ce que Dieu va encore se faire connaître aujourd'hui? Comment est-ce que l'Église peut encore prêcher l'Évangile? Moi, il y a des moments où je ne sais même plus quel genre de parole il faut utiliser pour que les gens comprennent. Ce qui est fabuleux, c'est que dans cette histoire, à un moment ou à un autre, Dieu, il est allé chercher des personnes qui pensaient totalement différemment. Et il leur a dit, venez, je vais vous montrer la voie. Encore une fois, je ne veux pas m'étendre, mais pour moi, cette simple idée, dans lisant l'Évangile, c'est qu'à un moment ou à un autre, Dieu, tu sais quoi, le salut qui se trouve en Jésus-Christ, moi, je vais aller appeler des gens et les faire venir de toutes les nations, des quatre coins de la terre. Et ces gens-là viendront et trouveront le salut et trouveront la joie qu'ils recherchent. Cette étoile que vous placez au-dessus de votre arbre de Noël, ou cette étoile illuminée que vous mettez, que vous avez achetée chez Ikea, est un signe qu'aujourd'hui rien ne l'arrête pour être encore un guide et être encore le moyen par lequel les hommes trouveront la joie qu'ils recherchent. Et ça, maintenant, aujourd'hui, quelles que soient les limites de notre Église, les limites de nos Églises, les limites du bien-pensant, Dieu ira chercher ces personnes, parce que c'est son plan. Et parce qu'il voulait que la bonne nouvelle se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque moi je vois ces trois chameaux avec trois mages dessus et l'étoile, je me dis, Dieu, il n'y a plus de frontières à ce que tu peux faire et à ce que tu fais. Et ce n'est pas à moi d'en placer non plus. L'étale et la mangeoire. Moi, l'image qui me vient lorsque j'essaye de transposer aujourd'hui, c'est celle des migrants, aujourd'hui, dans le contexte où on est là maintenant. Alors, je sais, ça casse un petit peu l'esprit, l'ambiance de Noël. Hein, si on pouvait parler d'autre chose que les migrants et puis la Syrie, en ce moment, on se sentirait beaucoup mieux. Mais c'est l'image qui me vient. Il nous est dit explicitement qu'ils sont retrouvés dans une étable parce que personne n'avait de la place pour eux. Personne n'avait de la place pour eux. Mais ce qu'il y a de formidable dans ce message, c'est que Dieu, il dit, moi je suis là dans ce qu'il y a de plus humble, de plus vil, là où il n'y a plus de place, où les personnes sont rejetées, moi je suis là. Et combien d'entre vous, à votre façon, dans les expériences que vous avez vécues, vous vous êtes senti de trop, ou rejeté, ou pas à votre place? Et là, Dieu, il dit, tu sais quoi, moi, je suis là avec toi. Dans cette étable qui pue. Je suis là avec tous les migrants à Calais et ailleurs, et je ne sais pas où ils sont, mais je suis là avec eux. Et là, en élargissant un tout petit peu, nous ne pouvons pas faire autrement que de prendre conscience que dans l'Écriture, Dieu, il est avec le faible. Dieu est avec le faible. Il est avec la veuve et l'orphelin depuis toujours. Il a été avec Israël, qui était le plus petit de tous les peuples, à côté des Égyptiens et tous les grands qui étaient beaux, etc. Et tout. Il était avec cette petite tribu. Dieu est avec nous dans notre faiblesse. Mais il y a un paradoxe aussi dans l'Écriture qu'il faut soulever, c'est que c'est aussi dans l'humilité et dans l'humiliation que Dieu fait de grandes choses en nous et par nous. Et là, c'est quelque chose qui, dans l'Évangile, nous trouble tout le temps. Moi, je veux bien prier les béatitudes, mais pour les autres. Je veux bien prier les béatitudes, les pauvres, pauvres en esprit, ceux qui pleurent, et je pense aux autres. Mais le jour où moi je dois pleurer, le jour où moi je dois être pauvre, c'est encore quelque chose auquel je résiste, c'est quelque chose qui je veux dépasser à tout moment. Et pourtant Jésus, il dit ici, et il le montre par lui-même, et ça, son incarnation et l'étable, c'est que la première étape de ce qu'il va vivre dans cette humiliation. Personne n'a dit clap-clap à Jésus pendant toute sa vie, comme ça. Personne n'a dit, t'es quelqu'un de bien, on va te faire roi, etc. Et tout. Et puis tout le monde a dit, ça y est, enfin on a compris. Non, tout le long de sa vie, les gens ont dit, non, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on attendait. Puis de toute façon, ce que tu nous dis nous dérange. Et Jésus a été humilié. Mais parce que dans l'Écriture, l'humilité et l'humiliation précède la gloire. Chers amis, c'est le chemin que nous allons devoir vivre nous-mêmes, non pas que Dieu va nous marcher dessus et nous faire traverser les pires moments, mais sauf que ça fait partie de notre vie. Et que dans ces moments d'humiliation et tout, il ne faut pas simplement chercher à les dépasser, mais c'est dans ces moments d'humiliation, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire en moi ? Donc cette étable, là encore une fois, mais imaginez-vous quand même un trou, je veux dire, un truc qui pue, le truc où vous ne mettriez pas vos propres gamins, je veux dire, c'est, aujourd'hui, l'assistante sociale, elle viendrait, on vous enlèverait votre gamin si vous le mettiez dans un endroit comme ça. Et il est né là parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Et là, la question que ça pose aussi, c'est la place que moi, je lui fais. Et là, la question, elle est sérieuse. Et encore une fois, moi, je ne veux pas troubler, mais entre la dinde, les huîtres, l'arbre de Noël et les cadeaux, il est où, Jésus ? Le dimanche matin, avant Noël, dimanche matin, après Noël, d'accord, on a de la place. Mais il est où ? Quelle place est-ce qu'on lui fait ? Et cette question de place et de choix est toujours quelque chose qui revient dans la vie du chrétien. Nous sommes constamment appelés à faire des choix. Et là aussi, parce qu'il n'y avait pas de place, il s'est retrouvé dans cet endroit misérable. Alors là, il y a un autre piège pour les chrétiens, c'est qu'on se dit, oui, mais il y avait des prophéties qui annonçaient ça de toute façon, donc il fallait que ça arrive comme ça. Donc, puisqu'il y avait des prophéties, il fallait que ça arrive. Et heureusement que ce soit arrivé comme ça, parce que comme ça, on peut dire que les prophéties avaient raison. Mais on perd tout le sens que ça signifie. Et quelque part, Christ ne peut être reçu que dans un esprit d'humilité comme le sien aussi. Le troisième aspect de l'histoire de Noël, les bergers, les rois mages et les anges, tous ont en commun qu'ils viennent et qu'ils adorent le Seigneur. Ils sont venus et ils ont adoré le Seigneur lorsqu'ils étaient là. Et ce qui est fabuleux ici aussi, de nouveau, c'est comment Dieu arrive à susciter l'adoration dans des populations extrêmement différentes et d'où elles viennent, que ce soit des petites gens comme les bergers qu'on n'écouterait pas parce que ce n'est pas des gens éduqués, donc ils ne peuvent pas savoir ce que disaient les prophéties, ni comment le Messie allait venir, etc. Et tout. Donc, de toute façon, on n'allait pas les écouter. Les rois mages, de toute façon, eux aussi, ils avaient vu quelque chose de bizarre, mais que l'Écriture n'avait pas vraiment parlé auparavant, etc. Et, tout. Et puis des anges. Il y avait beaucoup de théories sur les anges à l'époque. Mais Dieu, à un moment, mobilise toute sa création dans l'adoration du Seigneur. Et il arrive à faire susciter dans le cœur des plus petites gens, comme dans les gens les plus éloignés sur le plan religieux, comme dans toute sa création, puis même à un moment Jésus il dit « Si les gens doivent se taire, c'est les cailloux qui vont se mettre à chanter. » Il y a dans la création, dans toute sa diversité, et pas simplement dans les gens qui chantent nos cantiques et dans nos propres églises, Dieu suscite l'adoration autour de lui. Et pour ce qu'il a fait. Et ça devait être quand même assez extraordinaire, parce qu'encore une fois, je veux dire, si vous étiez invité à aller voir un petit gamin sous un pont à Calais, est-ce que vous mettriez votre espoir là-dedans et en disant... Je vois, c'est exactement ça que j'attendais. Et vous mettriez à adorer le Seigneur ? Pas nécessairement. Mais ici, l'œuvre du Seigneur dans le cœur des gens leur a fait voir dans ce bébé, comme il le fera plus tard avec Anne et Siméon, voir dans ce petit bébé, dans quelque chose d'extrêmement chétif, toute la réalisation des promesses de Dieu. Et combien de fois est-ce que nous nous arrêtons pour... penser tout simplement à Jésus et se dire, mais c'est incroyable tout ce qui a été cristallisé dans sa personne et dans son œuvre et qui est le fondement sur lequel nous pouvons nous tenir aujourd'hui et qui est la direction que nous suivons. Moi, je trouve extraordinaire que Dieu, à un moment, même le peuple juif et la religion juive ne pouvaient pas contenir tout cela. Il fallait un moment que ce soit et les gens non éduqués, et les gens de très loin, et les anges qui associent tout leur chant pour qu'on ait quelque chose à peu près digne de qui était le Seigneur et de l'œuvre qu'il était en train de faire dans la crèche. Et pensez à ce verset qui dit qu'un jour, tout genou fléchira. Et toute langue confessera Et croyez-moi, ce jour-là, Dieu ne le fera pas à la pointe de la Kalachnikov en disant « Mets-toi à genoux » puis dis que je suis le mec le plus bien. De même, tous les êtres humains verront et adoreront le Seigneur pour qui il est, au-delà des apparences. Et dans cette histoire, on a des choses qui sont troublantes comme ça, mais qui nous montrent à quel point le Seigneur fait une œuvre extraordinaire à la hauteur de qui il est. Et qu'il ne se limite pas simplement à ce que nous pensons, à ce que nous savons déjà, ou les gens qui sont dignes ou pas dignes. Mais il va bien au-delà, pour se créer un peuple qu'il adore. Et peut-être le dernier point, je pourrais continuer sur plein d'aspects de cette histoire, mais cet enfant. Si nous nous arrêtons à un petit enfant qui est chétif, qui est faible, si on s'arrête à l'idée de simplement, c'est un petit enfant, mais vous avez vu comme il est devenu grand, qu'il a complètement bouleversé le monde, et puis ça a été l'homme le plus puissant. On passe à côté, me semble-t-il, de ce qui est le message essentiel de Noël. Il ne faut pas s'émouvoir du fait que c'était un petit enfant. Quoi ? Si, on peut s'émouvoir du fait que c'était un petit enfant, mais il y a une plus grande idée derrière. Et cette plus grande idée, c'est celle qui est dans le nom de Emmanuel, qui veut dire littéralement en hébreu, Dieu avec nous. Et lorsque tout ça aura été développé par la suite, c'est que Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. Et ça, c'est l'explication qui nous est donnée. Dieu est devenu l'un comme nous. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut compatir, qu'il peut nous comprendre, qu'il a vécu les mêmes choses que nous. Et aujourd'hui, lorsqu'on se dit « mais qui comprend ce que je vis ?» On en a un là qui dit « moi je comprends ce que tu vis parce que je suis devenu comme toi. » Mais plus encore, Jésus est devenu un homme parce que les hommes n'arrivaient pas à rétablir cette relation avec Dieu, à prouver qu'ils étaient dignes de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu et de la vie. Et il a fallu que Dieu lui-même, dans son amour extraordinaire, devienne un homme pour que nous puissions tous vivre. Et ça, c'est la chose certainement la plus incompréhensible dans l'histoire de Noël, c'est que là, parmi nous, un homme a marché, un homme qui a vécu des choses comme nous, mais qui nous a ouvert la voie de la vie. Et toute cette idée de distance que nous avons peut-être quelquefois avec Dieu, en se disant « Dieu, il est tout autre, il est beaucoup plus grand, il est infini, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, et puis nous, on voit qu'une toute petite partie... » On crée quelquefois ces grandes distances. Et là, ce qu'il y a absolument d'extraordinaire, c'est qu'on a Dieu qui entre dans sa création et qui devient l'un de nous. Et c'est là, lorsqu'on voit le petit bébé, c'est ça qui devrait nous frapper le plus, c'est de dire, quoi ? Dieu est devenu l'un de nous. Et que dans ce sens-là, il est avec nous tout le temps. Et vous savez comme moi que c'est la promesse qu'il nous a laissée, c'est que tous les jours de notre vie, jusqu'à son retour, il serait avec nous par son esprit. Chers amis, combien d'entre vous avez l'impression quelquefois de vivre dans l'absence totale de Dieu ? Et quelquefois Dieu, oui, nous laisse un petit peu dans le silence des choses comme ça et tout, mais ça ne signifie pas que Dieu est absent. Dieu est là. Et lorsque nous voyons toutes les situations inextricables que nous pouvons nous-mêmes vivre, ou que notre monde vit, ou que nos familles vivent, Dieu est là, parce qu'il s'est incarné et qu'il est devenu un homme comme nous. Alors, chers amis, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer longtemps sur beaucoup de ces détails. Mais encore une fois, simplement vous encourager, je veux dire, oui, illustrer encore la nativité, des choses comme ça et tout, parce que ça nous aide quelquefois à avoir des images. Mais faites attention, parce que le folklore finit par s'étioler et ne porte plus. Sans oublier que quelquefois, il raconte des bêtises. Mais au-delà de ça, il nous faut nous réapproprier le sens qui est derrière. Alors, encore une fois, ce n'est pas toujours quelque chose de très festif, mais relisez les récits de la nativité dans les évangiles, ce n'est pas toujours que du festif. C'est ce mélange qu'il y a où Dieu est en train de rentrer dans l'histoire, en train d'entrer en conflit avec les forces opposées pour faire jaillir son salut. Chers amis, nous avons dans l'histoire de la nativité tous les éléments pour méditer et vivre un Noël extrêmement joyeux. Et nous pouvons reprendre tous ces éléments-là comme des illustrations de quelque chose de beaucoup plus large, de qui Dieu est et de ce qu'il fait et de quelle était son intention. Et là, nous pourrions prendre le temps, par exemple, avec l'évangile de Matthieu, de voir comment Jésus est l'objet de toutes les attentes, de tout ce que le peuple attendait, de toutes les aspirations. Jésus est cette réalisation-là. Quel message extraordinaire aujourd'hui pour le monde, si nous pouvions trouver un moyen de dire, je vais vous dire comment Jésus est l'objet de vos aspirations. Quel message d'évangélisation extraordinaire. On serait 500 ici ce matin si on arrivait à transmettre ça. Alors voilà quelques éléments que je vous laisse pour Noël prochain. Noël prochain, lorsque vous sortez vos décorations, lorsque vous sortez tout ça, que vous dites, mais quel est le sens de ce que je vais vivre? N'essayez pas de recomposer des petites choses dans votre tête entre foie gras et famille et puis sapin et nativité. Mais retournez à l'écriture et voyez le sens que le Seigneur a donné à tous ces événements. Et ensuite, que vous le fêtiez en famille, que vous le fêtiez avec des amis, que vous le fêtiez avec un sapin ou pas de sapin, ça n'a pas d'importance. Sentez-vous libre de le faire, mais que votre joie soit celle de ce que le Seigneur a fait à Noël et qui est tellement plus vaste que le folklore dans lequel nous baignons souvent et qui peu à peu risque de nous dévorer un petit peu parce qu'il n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Je vous invite à quelques instants de méditation et de prière. En demandant au Seigneur qu'il rafraîchisse peut-être ces histoires que nous connaissons tellement bien, mais qui sont peut-être un peu usées dans notre cœur. Qu'il les rafraîchisse et puis ensuite qu'il nous aide peut-être à vivre ces derniers jours de Noël dans cet esprit de joie qui est la joie véritable. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ta parole. Te dire un grand merci, Seigneur, pour cette histoire de Noël. Parce que c'est vrai, nous savons tous qu'elle est extraordinaire. Qu'elle a été l'aboutissement d'une longue période d'attente et de préparation, mais aussi qu'elle a été le début de quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ton Fils. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous nous associons tous les uns aux autres pour te dire un grand merci. Et nous te prions, Père, que tu ravives notre joie, que tu la rafraîchisses, et que même si nous avons des traditions différentes, même si nous l'exprimons de façon différente, que nous puissions tous, Seigneur, plonger dans ta parole et dans l'œuvre extraordinaire de ton amour envers nous. Alors Seigneur, ce matin, nous nous réjouissons encore de la venue de ton Fils. Nous nous réjouissons encore, Seigneur, de pouvoir célébrer cette venue. Et nous te prions que tu continues de préserver la paix dans notre pays afin que nous puissions aussi, et la liberté, Seigneur, afin que nous puissions encore en toute liberté célébrer cet événement. Nous te glorifions et nous te disons notre amour en retour. Au nom de Jésus, amen. Il y a un avantage avec la Sainte Cène par rapport à Noël, c'est que le sens nous est donné, et c'est quelque chose qui est entouré de moins de folklore. Et les textes que nous avons et que nous lisons nous rappellent quel est le véritable sens de ce geste que nous faisons régulièrement et tout le sens qui est derrière. Alors bien sûr, c'est du pain, c'est du vin ou du jus de raisin. Ce sont des choses matérielles et toutes simples. Mais nous savons que derrière tout ça, il y a un sens beaucoup plus profond. Et nous avons la chance de pouvoir régulièrement nous arrêter et tout simplement reprendre conscience de quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque nous prenons le pain et le vin, nous disons quelle est la direction de notre vie. Et c'est un choix et une déclaration importante que nous faisons. Parce que le Seigneur, il dit, lorsque vous prenez le pain et le vin, vous le faites premièrement en souvenir de ce que j'ai fait. Donc nous déclarons ce matin, effectivement, le Christ est mort et ressuscité. Et puis lorsque nous le faisons de façon régulière comme ça aussi, c'est parce que nous suivons ce qu'il nous a demandé de le faire jusqu'à son retour. Et que dans le fond de notre cœur, nous disons aussi, nous espérons et nous attendons ce retour. Les implications sont énormes pour notre vie. En quoi est-ce que nous mettons notre espérance au jour le jour? Et est-ce que Christ est véritablement le fondement de notre vie? Et puis, troisième chose, c'est que lorsque nous prenons du pain et du vin, nous nous nourrissons. Et Christ est le véritable pain de vie. Christ est véritablement celui qui nourrit notre âme, qui nourrit notre cœur. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à participer à ce repas, mais en prêtant ce sens à ce geste que nous allons faire ensemble. De déclarer aux autres, mais de déclarer pour soi aussi, le fondement de ma vie est la mort et la résurrection de Christ, et mes yeux sont portés sur son retour. Et qu'au jour le jour, je vis de sa présence en moi. Chers amis, nous sommes tous libres de prendre le pain et le vin parce que personne d'entre nous n'est digne de ce que le Christ a fait. Mais en même temps, nous sommes tous libres de ne pas le prendre si nous ne voulons pas donner à ce geste ce sens. Alors ici, si aujourd'hui, pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas prendre le pain et le vin, vous êtes libre de ne pas le prendre. Mais aujourd'hui, si vous voulez saisir ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous, chacune et chacun est libre de participer à ce repas. J'aimerais inviter Jean-Paul et Philippe, s'ils veulent bien s'avancer, demander à Jean-Paul de prier en notre nom pour remercier le Seigneur pour le pain, et ensuite je demanderai à Philippe de prier pour la coupe.
Seigneur, c'est vrai, c'est bon de se rappeler ces symboles que tu places devant nous, ce pain de tous les jours, mais ce pain de tous les jours pour nous rappeler qu'un jour tu es mort pour nous et tu nous amènes à la vie tous les jours grâce à ce sacrifice à la croix. Tu es venu pour nous, tu es venu pour nous sauver. Et Seigneur, on veut se rappeler de ce sacrifice et on veut attendre ton retour, le retour que tu as annoncé aussi, jusqu'à ce que tu viennes, témoigner que tu es notre Dieu. Et c'est avec cette force que nous voulons vivre. Amen.
Oui Seigneur, merci parce que tu es venu parmi nous. Tu es venu parmi nous en simple homme, mais tu étais en même temps parfaitement Dieu. Merci Seigneur parce que tu es venu pour donner ta vie afin que nous ayons nous-mêmes cette vie en toi. Merci parce que tu es venu nous racheter de notre éloignement dû à notre péché. Sois loué Seigneur parce que ton œuvre est parfaite, pleinement suffisante. Merci parce que c'est toi qui nous as rapprochés, ce ne sont pas nous qui avons pu nous élever jusqu'à toi, mais c'est toi qui es venu nous chercher. Merci parce que nul n'est digne, mais toi tu es Dieu, parfaitement homme, parfaitement accompli. Merci pour ton œuvre de salut. Merci parce que elle nous habite. Merci parce que tu nous donnes aussi des promesses. Sois loué, sois béni Seigneur. Amen.
Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « prenez, ceci est mon corps. Puis il prit une coupe et la distribua à ses disciples en disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang qui sera versé pour tous, mais c'est le sang d'une nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. »
Bonjour, je partage avec vous les annonces de la semaine, semaine légère, vous pouvez le voir, très légère même. Par contre, pendant cette semaine, il y aura la veillée de fin d'année, la veillée du 31. Alors si quelqu'un se retrouve seul, venez nous en parler, c'est beaucoup plus sympathique de passer le réveillon à plusieurs. D'être entouré pendant ces moments-là, donc ne restez surtout pas seul la veillée du 31. Il y a déjà un couple qui s'est annoncé, donc si vous venez nous trouver, vous ne serez pas seul. Mercredi de la semaine prochaine, donc le 6 janvier, une activité en plus de nos activités habituelles, nous aurons la réunion de prière en commun avec les autres églises protestantes et évangéliques du Pays de Gex, donc le mercredi 6. Et puis le samedi 9, le samedi d'après, le matin, première rencontre, sport et foi. Donc voilà, si vous avez envie de bouger, de faire bouger votre corps, eh bien, c'est le moment avec Pierre et Mathieu. On a appris le décès de Dora Vangère. Certainement, les plus anciens se rappellent qui elle est. Dora Vangère est décédée donc dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et une cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Genis mercredi 30 à 14h30. Mercredi 30 à 14h30. Au Temple de Saint-Genis, oui. Au Temple Mennonite, oui. Je vous rappelle les calendriers pour l'année 2016. Il y en a encore un certain nombre, n'hésitez pas à les distribuer. C'est aussi un moyen de faire connaître l'Évangile. Et puis une petite annonce, il y a au fond de la salle sur la droite, juste avant de sortir, un panneau sur lequel il y a toutes sortes de prospectus, de documents. Horizon 9, je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde. On reçoit tous les mois le journal d'Horizon 9, il y en a 7 ou 8. Donc ils sont là-bas, vous pouvez en prendre. C'est toujours très intéressant, il y a toujours des articles très, très chouettes dans ce journal. Et on ne pense pas toujours aux petits panneaux, il y a toutes sortes d'informations intéressantes. S'il n'y a pas d'autres annonces à partager, je vous invite à vous lever. Et je vous lis encore 3 versets dans Psaume 34. On a parlé à plusieurs reprises de la bonté de Dieu sur l'année qui s'est écoulée. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.